Alors, shalom les koulam, boker tov. Alors, voilà. La semaine dernière, on est rentré dans l'univers du Rav Kook et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait omis un géant. Et donc, nous revenons quelque peu en arrière, comme ça, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, comme de toute façon, la série sera uploadée dans le bon ordre, voilà, on n'oubliera pas de... on appellera ça Rav Kook 1 et Rav Kook 2 après. Et donc, comme ça, on pourra mettre le cours d'aujourd'hui à sa place. Alors, les amis, on va parler évidemment du natif de Volozhin. Mais avant de parler du natif de Volozhin, pour, on va dire, boucler la boucle, on va commencer par parler de cette fin, de cette toute fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc c'est vraiment la génération du Rav Kook qui est un tout petit peu avant. Et on va commencer par un homme qui naît à Aram Tsova, c'est-à-dire en Syrie, Chachmei Chalab, en 1864. Un homme qui, au dire de lui-même, va souffrir toute sa vie. Il souffrira au niveau de son corps toute sa vie et dira de lui-même qu'il est, dans cette souffrance, la capara, il fait partie de la capara des 2000 ans d'exil. Et c'est une vie de souffrance qu'il va avoir, et particulièrement au niveau de ses yeux. Il va très vite perdre la vue, d'abord de manière partielle et ensuite de manière pratiquement totale. Mais ça ne l'empêchera pas de devenir... Au final, après être devenu rabbin, être devenu Dayan, être devenu tout ce que tu veux, il deviendra finalement le Rosh Yeshivat HaMekoubalim Bethel. Et oui, on parle d'un homme qui arrive en Eretz Israël à l'âge de 20 ans. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il commence à grandir, pour finalement devenir Rosh Yeshivat HaMekoubalim Bethel, donc à Jérusalem. Eh bien, nous parlons d'un homme qui s'appelle Arav Shalom Adaya. Arav Shalom Adaya s'inscrit finalement dans la grande lignée des Chachmei HaMekoubalim HaYerushalmim. Et ça, c'est pas quelque chose qui se prend n'importe comment. L'Imoud HaKabbalah à Jérusalem avait quelque chose de particulier. Pourquoi quelque chose de particulier? Eh bien, parce que Chachmei HaMekoubalim Pirushalayim avait tendance à se couper des autres rabbanim, disant que personne ne pouvait comprendre la réalité de Yerushalayim. Et c'est pour ça que lorsqu'il y avait des contacts, souvent, les Chachmei Yerushalayim, Chachmei HaMekoubalim de Jérusalem, envoyaient des lettres aux rabbins qui étaient connus dans le monde juif, Mebeil Umshem, pour que les gens s'intéressent uniquement à ce qui a été marqué et non pas par rapport à celui qui avait marqué. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que, en fait, oui, ça change qui a dit la chose. Et oui, parce que lorsque tu dis la même chose, mais que tu es... on te connaît et on sait qu'est-ce que tu penses, ça peut être accepté d'une façon plus sympathique ou moins sympathique. Et donc, ici, Rabbi Shalom Adaya, lui, va décider de rester Be'ilum Shem. Ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas, puisque finalement, les gens vont reconnaître le style. Les gens vont reconnaître le style. Et par exemple, lorsqu'il enverra ses lettres à Rabbi Elchanan Wasserman, très vite, il va comprendre qu'il s'agit de... du style de Yeshivat HaMekoubalim, et donc après, tu remontes très rapidement au Rosh HaYeshiva, et donc ça ne marchera pas de rester Be'ilum Shem. Alors, de quoi parle-t-on? Quelle est la particularité de Rabbi Shalom? Rabbi Shalom Adaya a une capacité à être Doresh. Il est Darshan, c'est-à-dire que à l'inverse de ses yeux qui se ferment, sa bouche, elle s'ouvre, Chaval al Azman. Et voilà, c'est de ça qu'on parle. Il va être, il va faire partie de ces rabbanim qui accompagnent la création de l'État d'Israël. Comme le Rav Kook qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière, il fait partie donc de ces rabbanim qui accompagnent le retour du peuple juif sur sa terre avec des explications alpi à Kabbalah. La grande différence entre lui et par exemple le Rav Kook, eh bien, c'est que alors que Beishivat HaMekubalim Betel, on utilise le langage de la Kabbalah, eh bien le Rav Kook, lui, va traduire son message avec un langage de son époque. Certains diront que c'est mieux, parce que ça parle au chilonim de son époque, et certains diront, mais enfin, je comprends pas, pourquoi le Rav Kook, il a un langage très, très, très particulier, il peut pas parler dans Sfirot comme tout le monde. Bon, mais ça, c'est parce qu'on est 100 ans plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un retour à la Torah du Hari, et donc à la Torah avec ce langage qui est le langage du Harizal, chose qui n'est pas le style du Rav Kook. Donc ça, c'est pour ce qui est de Yeshivat HaMekubalim Betel Birushalayim. Et puis à côté, il y a un autre personnage. Alors un autre personnage, comment vous dire, qui est extrêmement, extrêmement important. Je ne vais citer que ses livres, car il n'est il va écrire beaucoup, mais il écrit que Bekabala. Il va écrire, par exemple, un livre qui s'appelle Minchat Yehuda. Minchat Yehuda, c'est un commentaire du Tanakh, du Talmud, de la Kabbalah, toujours Besignon, shel Torah Tassod. Bet Lechem Yehuda, c'est un pérouche sur le livre Etzraim de Rabbi Chaim Vital. Yain Arokar, qui est un pérouche de la Hydra Rabba et de la Hydra Zuta, des parties du Zohar. Matok la Nefesh, un pérouche al Saba de Mishpatim. Afike Maim, pérouche encore un autre sur Etzraim, mais cette fois étudié en groupe. Ater et Rachel, sur Pirkei Avot al Pi Kabbalah. Keter Tzadik, sur le Chamisha Chumshe Torah al Pi Kabbalah. Asiret Tikva, qui est un livre de Tfilot, un Pikavanot, selon les défis de sa génération. Chasdei David, également un livre de Kavanot Batfila. Mais Kitsour, vous aurez compris que le bonhomme, c'est pas n'importe quoi. D'autant plus qu'il écrit Mishle Bavel. Mazé Mishle Bavel, Zeshmona Meot Arbaim Veshtaim Perushim. Perushim ve Meshalim alpi Asod. Bon, alors c'est qui ce monsieur-là? Eh bien, ce monsieur-là, c'est évidemment pas n'importe qui. Ce monsieur-là n'est autre que Rabbi Yehuda Phtaya. Rabbi Yehuda Phtaya, qui grandit à Bagdad et qui arrivera à Yerushalayim, évidemment, il est l'élève de Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, du Ben Ishraï. Il est l'élève également de Rabbi Abdallah Sommer. On a déjà parlé de ces gens-là. Évidemment, il arrive en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, j'aimerais qu'on parle directement de la fin de sa vie. Pourquoi je veux parler directement de la fin de sa vie alors qu'il arrive tard en Eretz Israël? Il arrive en 1933 en Eretz Israël. C'est très tard. C'est très tard dans la mesure où il mourra en 1942. Lui, qui naît à Bagdad en 1859, vous comprenez que l'écrasante majorité de sa vie, eh ben, il la vit à Bagdad. Il n'arrive en Israël que lorsqu'il a 74 ans. Donc, c'est pas rien. Mais lorsqu'arrive la Shoah, eh bien, il va se passer plusieurs choses. Il réunit autour de lui, plusieurs Mekoubalim qui sont en Eretz Israël, y compris Rabbi Shalom qu'on vient d'évoquer, et il va répartir les Mekoubalim à différents points stratégiques d'Eretz Israël sur des Kivret Tzadikim pour faire des Tfilot Be'agana à l'Eretz Israël. En l'occurrence, lui-même montera dans un avion pour aller faire le tour d'Israël, au-dessus d'Israël, et faire des tfilotes et des tikkunim pour faire en sorte que l'armée de Rommel n'arrive pas en Eretz Israël. Après, l'histoire va arrêter, enfin, va nous dire que les Britanniques vont arrêter Rommel à El Alamein, dans le combat de El Alamein, va faire que finalement, eh bien, il n'arrivera pas en Eretz Israël. Est-ce que c'est suite aux tfilot de Rabbi Yehuda Phtahya ou pas? L'ODA, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Alors, l'un des trucs qui est assez particulier chez lui, et j'aimerais que vous, ben vous pouvez hein, me poser des questions là-dessus, mais je ne saurais pas y répondre, donc c'est pas la peine de me harceler. Mais il avait un truc qui l'a rendu célèbre, quelque part. Waya Baki Be Pitron Chalomot, tout d'abord. Il était un spécialiste des rêves, mais également un spécialiste Be Tikkuni HaNefesh. Tikkuni HaNefesh et de Hotsaat Dibukim. Et là, il va falloir qu'on entre. Là, il va falloir qu'on parle deux secondes de cette réalité-là. Qu'est-ce que c'est que Tikkuni HaNefesh et qu'est-ce que c'est que les Dibukim? Alors, Tikkuni HaNefesh, on parle de quelqu'un qui est déjà mort. Parce que si on parle de quelqu'un qui est vivant, eh ben, il suffit que la personne elle fasse tshuva et c'est ça son tikkun. Mais lorsque la personne est décédée et qu'il y a encore des choses à corriger chez lui, eh bien, il y a des rabbanim qui étaient dans cette ambiance-là de dire on va travailler pour faire en sorte de corriger les problématiques de la neshama de ce personnage. Alors vous allez me dire, mais attendez, je croyais qu'il y avait un truc dans la Kabbalah qui s'appelait le Gilgul. Ben le Gilgul, c'est bon. Une fois que la personne est partie, mais qu'elle a des choses à corriger, eh ben elle revient au Gilgul et puis c'est bon. Nachon, c'est bon. Mais en fait, Tikkun HaNefesh, c'est dans le monde de la Kabbalah le moyen de faire arriver la Neshama dans un Gilgul là-bas pour qu'elle puisse véritablement corriger ce qu'elle a à faire. En d'autres termes, Tikkun HaNefesh, c'est Achana le Gilgul. Ne faites pas ça chez vous, hein, ne reproduisez pas ça chez vous, hein, c'est compliqué. Et puis, il y a Hotsaat HaDibukim. Bon, comment vous dire? L'Ashkenaz qui est en moi a beaucoup de mal avec cette réalité des Dibukim al-Pi HaKabbalah. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'appellerait pas ça de la schizophrénie? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'appellerait pas ça du dédoublement de personnalité, voire détriplement de personnalité? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'appellerait pas ça de la paranoïa clinique? L'odeur. Cacheli. Voilà, je vais vous le dire. Cacheli, meod, avec cette réalité-là. Mais encore une fois, c'est caché parce que je suis un élève du Rambam. On est tous des élèves du Rambam. Caché, lui, parce que le Dibouk vient enlever le libre arbitre de l'homme. Il y a un esprit qui rentre en toi, qui te domine, qui te commande. Ben, il est où, ton libre arbitre? Où est ta relation avec Dieu? Donc, c'est caché, meod. D'un autre côté, Arbe, meod, Chachamim, ce sont... Enfin, il était connu pour cela. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus plus que de raison. L'ODA, demandez au Rav Chersky ce qu'il en pense, ou demandez au Rav Yoel ce qu'il en pense. Katonti. Et je sais que je ne vous aide pas parce que c'est un sujet qui évidemment passionne et défraie la chronique, parce que dès qu'on parle de choses qui sont du domaine du film fantastique, alors tout le monde s'excite. Mais caché, et je vais vous dire, c'est d'autant plus caché que je me permets de faire ce petit aparté parce que c'est compliqué cette histoire de Limouda Kabbalah. On sait, on n'arrête pas de dire qu'on ne peut pas faire sans Limouda Kabbalah. Vezenachon, Vemitzat Sheni, les gens s'intéressent à des parties de la Kabbalah, ils ne sont pas les parties importantes de la Kabbalah. Aretorat Asod, c'est pour nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. C'est pas pour faire des films d'horreur et de science-fiction et de fantastique. Donc, toute cette réalité-là de, ouais, les esprits, les machins, les trucs, les bidules, je pense que ça nous empêche de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Bémet, 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 bémet. Alors peut-être que c'est parce que j'y connais rien. C'est peut-être parce que... voilà. Rassurez-vous, Rav, les CEF aussi peuvent avoir ce genre de prévention. Eh bien, je l'espère. Mais enfin, c'est pas que... Il y a des Ashkenazim aussi hein, qui sont très, très portés là-dessus chez les Hasidim. Ils ne sont pas en reste. Hein. Mais voilà, je pense qu'on fait une erreur en se rattachant à ces choses ésotériques qui n'ont pas de réalité dans notre étude, parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'attache à Dieu. Bémet, ce n'est pas comme ça qu'on s'attache à Dieu. On s'attache à Dieu par la Torah, par les mitzvot, par les midot. C'est par ça qu'on s'attache à Dieu. Et pas par des coups d'éclat mystiques. Ceci étant, Rabbi Yehuda Ftaya, lui, il a enlevé les dibukim. Chouv, un lord abiduker zeoler. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais zemayesh. Est-ce que ça marche, le petit coup d'un effachot? Ben, je sais pas, essaye. Tu verras bien. Et encore une fois, si on comprend le tikkun hanefashot comme étant un truc, encore une fois, mystique et magique, l'onirali. Mais si tu comprends que c'est achana la gilgoul, c'est-à-dire en fait, on veut permettre à celui qui est parti et qui a encore des choses à corriger, permettre de le faire. Là, je peux entendre. Ok ? Et tout ceci, oui, Aaron, non, mais enfin... On a dit que les cours, les questions, c'était après. Les seules questions auxquelles je réponds pendant le cours, c'est les questions dans le chat. Donc, en fait, c'est la technique. Si vous voulez poser une question pendant le cours, vous la faites apparaître sur le chat. Et comme elle m'apparaît devant les yeux, alors je suis obligé d'y répondre. Donc, voilà. Bekitsour, maintenant qu'on a parlé de cela, eh bien, nous avons un autre personnage qu'on a évoqué très vite fait comme ça la semaine dernière en introduction du Rav Kook. Mais c'est quand même très très important. Il faut qu'on parle de lui, Rabbi Shlomo Eliashiv. Rabbi Shlomo Eliashiv, rappelez-vous, on a parlé de lui et on se rappelle qu'il est le grand-père de Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, le fameux Rav Eliashiv. Eh bien, Rabbi Shlomo Eliashiv, on dit Eliashiv en langage parlé, né en 1841. Meurt en 1926, il sera un des quatre grands élèves, un des quatre grands maîtres, sera du Rav Kook. Et Rabbi Shlomo Eliashiv, eh bien, est très particulier dans ses livres, parce que dans son livre qui s'appelle Sefer HaDea, Dea qui sont les initiales de Deroshe Olam HaTohu, il va nous expliquer quel est le sod des Malachim. Soda Malachim. Madrigata Olamot. Olamato, Olamatikun. C'est-à-dire que on comprend d'où vient la volonté de l'unité chez le Rav Kook quand on comprend l'enseignement du Baal HaLechem. Pourquoi on l'appelle Baal HaLechem ? Eh bien, parce qu'il écrit le livre très important dans le Torah Tassot qui s'appelle Lechem Shmo Shvo Sricha Ve'achlama. L'Efen Shvo Ve'achlama est en deux parties, qui est l'essentiel de son propos. L'essentiel de son propos. Dans la première partie, il va parler de Gereta Olamot Ve'ishtal Shelutam, et dans la deuxième partie, il fera un commentaire de Etzraïm. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Le Baal HaLechem va être dans la droite lignée du Gaon de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va s'appuyer, même dans le Limoud à Kabbalah, sur Chokhmat HaTalmud, sur la Gemara. Alors que dans la Torah, par exemple, du Ramchal, on va utiliser aussi la Gemara, mais on ne va pas forcément tout s'y référer uniquement à la Gemara. Shitat HaGaon Mevilna, c'est d'être beaucoup plus attaché à la Gemara, et on va retrouver ça Be Torah Baal HaLechem. C'est-à-dire, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler. Alors, voilà, les gens ont compris. Ce n'est pas Dieu qui décide de faire un Gilgoul pour l'homme. Bien sûr. Bien sûr que c'est Dieu qui décide. Évidemment que c'est Dieu qui décide. Mais dans la mesure où moi, je suis censé être un partenaire de Dieu dans le dévoilement et dans la construction du monde, eh bien, je vais aider cette Neshama-là à pouvoir être dans les meilleures conditions, à faire son tikkun. Donc, bien sûr que c'est Dieu qui ramène la Neshama pour faire un Gilgul, bien évidemment. Mais moi, j'ai mon rôle à jouer aussi. Plus je connais la personne, et plus je vais avoir une influence positive sur sa capacité à revenir corriger. Moins je connais la personne, et moins mon influence pourrait être grandissante. Mais ça a l'air top. Et donc, une fois qu'on a parlé de ces trois géants, de Rabbi Shalom Adaya, de Rabbi Udaftaya, et de Rabbi Shalom Shlomozera Eliashiv, eh bien, nous arrivons à notre masterpiece du jour. Et notre masterpiece du jour, eh bien, vous l'aurez compris, c'est le Nativ de Vologie. Et alors là, les gars, eh bien, on a du boulot. On a du boulot. C'est qui le Nativ de Vologie? Nativ de Vologine, 1816-1893, il était le Rosh Yeshivat Vologine. Pour être exact, il était le troisième Rosh Yeshivat Vologine et également le dernier Rosh Yeshivat Vologine, parce que c'est lui qui va fermer la Yeshiva. On va comprendre dans une seconde pourquoi. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Hanatziv Mivologi. Nativ, les initiales donc de Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Alors qui c'est? Eh bien, il y a le Gaon de Vilna. Après le Gaon de Vilna, il y a son grand élève qui va être son successeur qui s'appelle Rabbi Chaim de Vologine. Vologine en Biélorussie actuelle. Et Rabbi Chaim de Vologine va créer la Yeshiva de Vologine. Jusque-là, tout va bien. Après avoir créé la Yeshiva de Vologine et avoir mis en place le Seder à Limoud Be Yeshiva de Vologine, et ça, il faut bien que vous compreniez que ce qu'il va mettre en place dans le Seder de l'étude dans la Yeshiva, eh bien, toutes les Yeshivot, plus ou moins toutes les Yeshivot, du moins Ashkenaz, mais pour ne pas dire toutes les Yeshivot, eh bien, aujourd'hui, suivent le même plan d'étude que à Vologine. Si bien qu'on appellera cette Yeshiva M à Yeshivot, la maman de toutes les Yeshivot. Rabbi Chaim de Vologine a un fils qui va lui succéder après lui qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Vologine. Et Rabbi Yitzhak de Vologine n'a pas de fils, mais il n'a que des filles. Et donc, eh bien, sa fille aînée va épouser un homme qui s'appelle Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui va devenir son successeur et donc le Rosh HaYeshiva. Alors, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il a comme particularité, notre natif de Vologine? Yesh Agada, et on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Donc je vous l'ai dit quand même. Yesh Omrim, que dès son plus jeune âge, le natif est un Iloui. Et puis Yesh Omrim, que au contraire, le natif dans ses jeunes années, il a du mal à étudier. Il n'arrive pas. Et c'est à force d'abnégation et d'études qu'il va devenir le natif de Vologine. On ne sait pas laquelle des deux versions est vraie, mais c'est l'homme chané. Ça n'empêchera pas de devenir un des plus grands maîtres du judaïsme. Et quelle est sa particularité? Eh bien, sa particularité, c'est d'abord la pashtout. La pashtout. Mazer pashtout. C'est-à-dire que les choses doivent être simples. Ça ne veut pas dire simple qu'on ne va pas étudier, machin, mais la ligne droite. C'est pshat advarim. Il est un palpélan extraordinaire. Il arrive à faire le pilpoul, mais il veut arriver yachar et laïnian. D'un autre côté, il va être quand même au niveau de son étude, et bien au niveau de son étude, il reste quand même quelqu'un qui va montrer un petit peu toute sa grandeur dans tous les domaines, puisqu'il va écrire des livres absolument extraordinaires. D'abord, il va écrire le premier livre qu'il sort, c'est Emek She'ela. Mazé à Emek She'ela, c'est le commentaire des Sheiltot de Rav Chagon. Sheiltot de Rav Chagon, qui est déjà un livre de Halakha, et le Emek Davar est un commentaire de ça, et là-bas dans le livre, on voit toute sa grandeur au niveau de la Halakha. Mais il écrit un autre livre, qui s'appelle Meshiv Davar, Sheilot Utshuvot Meshiv Davar. C'est son autre grand livre de Halakha. Alors, le Emek Sheila, c'est un commentaire du livre de la Halakha. Le Meshiv Davar, c'est ses réponses de Halakha. Et là-bas, tu peux voir toute sa Shita, ta Psika. Et c'est quoi sa grande Shita à lui? Koach de Tera Adif. Il va chercher comment être métir Kamashevcha. Exemple, il y a un grand concept qu'il va écrire dans le Meshiv Davar. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qui décide et selon quelles règles on fait le tikkun d'un nefeshot? C'est une très bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. En tout cas, c'est pas moi. Ça va? Il y a une sugya extrêmement forte dans le Meshiv Davar. Que faire lorsqu'une femme a trompé son mari et il y a un enfant? Il y a un enfant. Bon, alors vous connaissez la halakha. Quand une femme trompe son mari et qu'il y a un enfant, et ben cet enfant est ce qu'on appelle mamzer. Et mamzer, c'est terrible. Mamzer, c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'il est pasoul, les ritounes. Et que la mère, elle est fautée, c'est une chose. Que le mec avec qui elle a fauté, c'en est une autre. Mais le pauvre garçon, le pauvre enfant, qu'est-ce qu'il a demandé? Et il porte en lui un drame, un vrai drame personnel. Il ne pourra pas se marier. Et c'est sur 10 générations. Alors tu me diras, attends, il peut se marier avec une mamzera. D'accord, il faut aller au bureau des enregistrements, voir qui est mamzer, avec qui je peux y aller. Oui, parce qu'il y avait un bureau des enregistrements à Jérusalem, à Tzfat, à Hebron, Rechimat à Mamzerim. Genre, c'était connu. C'est terrible. En bataille, nous dit le Natsiv, Haïm, si une femme a trompé son mari et qu'elle est tombée enceinte, même si elle est sûre à 100% que ce bébé il vient de sa tromperie, je dis le mec chez là, le Meshiv Davar, si jamais à cette même période le couple officiellement marié était quand même dans la même chambre, alors yesh safek, ma safek, quoi safek? Bah, peut-être qu'ils ont eu des relations, le mari et la femme. Je dis, bah attends, elle le sait. Si elle le sait qu'il y a eu des relations avec le mari et la femme, à une époque où on n'a pas de test ADN pour vérifier qui est le papa, bon bah alors effectivement, il y a un safek. Safek, peut-être que c'est le mari qui est responsable de la fécondation, donc on ne peut pas dire qu'il est mamzer. Aval, si elle sait qu'il n'y a pas eu de relation, elle n'a pas eu de relation. Mais est-ce qu'on dort dans la même pièce? Dis le Meshiv Davar. À ce moment-là, et attention, préparez-vous tous les MeToo de notre génération, préparez-vous à sauter sur l'occasion pour vous exciter. Dis le Natsiv. Aval, Rov Agvarim. Baim al neshotem kshem yeshenot. On est au 19e siècle, hein? Ça y est, on est parti. Une femme qui trompe un homme et un homme qui trompe une femme. Hein? Qu'est-ce que c'est? Bien, on peut faire la même chose. Alors, Rabotai, je tiens à vous rappeler quand même que d'après la Torah, un homme peut avoir plusieurs femmes. Donc, on ne peut pas parler de mamzerut dans ce cas-là. Maintenant, le fait que Rabbeinu Gershon, Meor HaGola, il a interdit la polygamie il y a de cela 1000 ans et que donc on n'a plus de polygamie, il n'empêche que même dans un cas où l'homme irait avec une femme non mariée, bien que lui-même soit déjà marié, et qu'il y a un enfant qui sort de là, eh bien, ça s'appelle znout, ça ne s'appelle pas mamzerout. Donc, ce n'est pas bien ce qu'il a fait avec la madame, mais l'enfant, il n'a pas de problème, il peut se marier avec n'importe qui. D'accord ? La mamzerout, tu ne peux pas l'inventer. C'est quelque chose qui vient de la Torah. Donc ça ne marche pas dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, nous dit le Natsiv, Rov Agvarim, la majorité des hommes, ils vont voir leur femme quand elle dort. Et elle n'est pas au courant. Hein, on appelle ça comment aujourd'hui ? Un viol conjugal, c'est ça ? Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Comment c'est possible, machin. On n'est pas en train de débattre sur la réalité. On n'est pas en train de débattre sur est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait. C'est Mayesh. Et donc, comme c'est Mayesh, eh bien, on peut déterminer que l'enfant, il n'est pas mamzer. Parce qu'on ne sait jamais. Et on veut protéger cet enfant-là et lui éviter une vie de souffrance terrible. Alors, vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les tests de paternité ? Dans des cas comme ça, okay, les rabbins, ils vont conseiller de ne pas faire de test. Mais alors, c'est vrai que si au final, tu as fait le test et tu sais, alors il n'y a plus de safek, et donc il est mamzer, c'est chaval. Okay, donc, la question est de savoir, est-ce que je veux la vérité ou est-ce que je veux le bien de mon prochain ? Bien sûr que des fois, c'est mieux que ce soit ensemble. Mais pour le natif de Vologine, ce qui est fondamental, c'est le bien-être des gens. Quand c'est assourd, c'est assourd. Aval. Quand on peut trouver un stratagème pour faire du bien aux autres, eh bien, voilà. J'ai traduit. Qu'est-ce que j'ai pas traduit ? Dites-moi s'il y a un mot que je n'ai pas traduit, je le traduirai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, donc ça, c'est une première partie de sa Torah. Comment faire du bien aux autres, mais en même temps, avec toute la profondeur de la halakha. Mais le livre qui l'a rendu le plus célèbre, eh bien, c'est tout simplement le Pérouche Emek Davar. Emek Davar à la Torah. Mais à Emek Davar, eh bien, Rabotai, c'est tout son commentaire sur la Torah. Disait, du coup, c'est comme quand les Chachamim fixent le temps. Il peut fixer qu'un mamzer. Attends. Qu'un mamzer ou non, et ça fait force de loi, même Bachamaim. Exactement. Exactement. Tout à fait. Ça peut faire force de loi même dans le ciel. Exactement. Bekitsour, c'est quoi le Emek Davar ? Eh bien, le Emek Davar, c'est son commentaire de la Torah. Emek Davar, al-Bereshit, Shmod, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Nous dit le Rav Zvi Yehuda Kook. Mi sheyodea haemek davar yashar afur ve'alarson, celui qui connaît ce livre-là de en long, en large et en travers, en safek shehu talmid chacham. Il n'y a pas de doute, c'est un talmid chacham. Pourquoi ? Parce que dans ce livre haemek davar, il y a tout. Il y a toute la force lituanienne de l'étude, des yeshivot de Vologine. D'un autre côté, il y a toute la capacité à être le pshat du Rabbi Chaim du natif de Vologine. D'un autre côté, il y a tout le sod qu'il a étudié depuis le Beit HaMidrash du Gaon de Vilna. Il y a tout dans le Emek Davar. La légende raconte, et c'est ce que je raconte moi sur sa tombe, il est enterré à Varsovie, la légende raconte qu'un jour, il a reçu dans son rêve la visite d'un ange qui lui a donné un livre. Et il a lu le livre. Et il a dit, c'est fantastique ce livre, mais qui l'a écrit ? Et il dit, regarde au début, il y a marqué. Et il regarde la première page, il y a marqué Rav, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. Genre, c'est lui. Et là, il répond à l'ange, il dit, mais enfin, c'est marqué que c'est moi qui ai écrit ça, j'ai jamais écrit ça. Et l'ange lui aurait répondu, Vela Malo. Et pourquoi pas ? Allez, écris, au boulot. Et à ce moment-là, le Natsi va commencer à écrire son bouquin. Tant, là, on est à Bidiouk. Mais que vous compreniez un petit peu quelle est la Torah du Natsi de Vologine. Il y a un verset dans la Torah qui dit « Ishamer lecha meod, ushmor nafshecha, מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. Fais très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu, c'est dans le livre de Devarim. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Kol ha-shocheach davar echad mi-mishnato ma'ale alav ha-katuv keilu mitraev benafsho. Tout celui qui oublierait une chose de son étude, eh bien, il est passible, comme s'il était passible de mort. Et en fait, nous dit le Natsiv, parce que la Mishnah en Pirkei Avot, elle se sert du verset pour prouver ses dires. Le verset qu'on vient de lire. Fais très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Nous dit le Natsiv, mais enfin, comment est-ce possible d'oublier quelque chose de son étude? Nous avons une mitzvah d'étudier tous les jours. Donc, on ne risque pas d'oublier. Réponse du Natsiv, Rosh HaYeshiva, de la plus grande des Yeshivot. Il dit, Al yede esek pilpula shel Torah, yechol sheneefach lo leroetz chas veshalom. Des fois, à force d'étudier la Torah, de pilpouler, tu vas oublier. Mais tu vas oublier quoi? Mais tu vas oublier Hadavar Aechad. La première chose que Dieu a dit, il a dit quoi? Anochi Hashem Elohecha Asher Otzaticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Que Dieu, il a sorti le peuple juif en entier de l'Égypte, de la maison d'esclavage. Il n'a pas sorti que les rabbins, il n'a pas sorti que les gens de droite, pas que de gauche, il a sorti tout le monde. Et nous dit le Natsiv, si ta Torah, elle te coupe du reste du peuple juif, Aze Baya Abaya Iba Torah Shelcha Velo Be'am Israël. Et il dit ça à une époque très particulière. Pourquoi à une époque très particulière? Eh bien, parce que le natif de Volozhin, Rabotai, il vit à l'époque du renouveau sioniste. Eh oui, on est en plein milieu de ce qu'on appelle Chibat Sion, Chovevé Sion. Eh oui, il fait partie de ceux qui adorent Israël et qui font partie des Rabbanim qui vont appeler au retour en Israël. Il va même rentrer dans la Hanala de Chovevé Tzion avec des gens comme Yehuda Leib Pinsker, avec des gens comme Regenblum, des gens pas du tout religieux, même anti-religieux. Mais nous dit le Natsiv, c'est pas pour ça que tu dois pas participer, parce que, ben voilà, on y est. C'est le moment. Ah, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on pensait devoir être la Géoula. Oulala, quelqu'un dit ici, quand on fait les tests de paternité, il est prouvé que 30% ne sont pas les vrais pères. Oy va et voy. C'est un chiffre terrible, terrifiant. J'espère qu'il n'est pas vrai. Mais en tout cas, le Natsiv, il dit, mais ça y est, le renouveau, il y est. C'est la main de Dieu, tout ça. Donc, eh bien, il faut y participer. Et c'est pour ça que malgré l'opposition farouche de Pinsker, de Regenblum, ça n'empêchera pas le Natsiv de faire partie de Chovevé Tzion et de motiver tout le monde à venir en Israël. Et à la question de, ouais, mais enfin, comment ça peut être la Géoula alors que ça ne ressemble pas enfin voilà, il ne ressemble pas à ce qu'on attendait des Géoulim. Le natif de Volozhin écrit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il écrit quelque chose dans son commentaire du Sefer Shmot, dans le Emek Davar. Et il dit, lorsque Moshe Rabbeinu a mis la main dans la veste, vous savez, il a demandé des signes à Dieu. Alors non, je viens de me tromper, ce n'est pas dans le Emek Davar qui dit ça. Non, je me rappelle. C'est dans un Mahamar, dans un texte qu'il écrit comme ça par rapport au sioniste, s'appelle Drishat Sion. Voilà, autant pour moi, Acharit Kereshit. Drishat Sion, Acharit Kereshit. Et là-bas, il explique que quand Moshe Rabbeinu, le deuxième signe que Dieu lui donne, il dit, mets ta main dans ta veste et il la ressort et elle est Metzorat Kashaleg. Or, nous dit le natif, la Tzaraat, elle vient Beikar, Al Lachonara. C'est principalement à cause du Lachonara, la médisance. Il dit, mais alors c'est quoi la médisance de Moshe? Il dit qu'il a dit du Lachonara sur le peuple juif. Pourquoi? Parce que juste avant, quand Dieu envoie Moshe vers les Bnei Israël, Moshe lui dit, mais enfin, ils ne me croiront pas. Ils diront, c'est pas vrai, Dieu, il ne s'est pas dévoilé à un mec comme toi. Lo yaminu li, lo yishmaou bekoli, vamrou lo nira elecha Hashem. Dit le natif, Moshe, il a eu peur que parce qu'il n'a pas grandi au Beth Amidrash et qu'il parle yiddish avec un accent coupé au couteau et qu'il est habillé comme un égyptien et qu'il a les codes de la culture égyptienne, eh bien que les juifs, ils ne l'accepteront pas. Et ils diront, ma pitom, c'est pas toi le Mashiach. Mashiach, il doit avoir une barbe et des péotes. Il dit le natif, c'est le fait que Moshe ait pensé qu'on n'allait pas l'accepter parce qu'il ne ressemble pas à un relige, c'est la Shonara. Parce que Am Israël, quand le Goël il arrive, il le reconnaît. Parce que tout le monde va accepter Herzl quand il arrive, Nahon, n'est-ce pas? Eh bien, nous dit le natif, tous ceux qui n'acceptent pas, Emtoim. Parce que ce n'est pas à toi de décider comment la Géoula doit arriver. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et s'il a décidé d'envoyer Herzl, ou il a décidé d'envoyer qui tu veux, eh bien, c'est parce que c'est ce qu'il a pensé qui était le mieux pour le peuple juif. Alors, vous comprenez que ça, eh bien, ça ne va pas du tout passer auprès de son gendre. Oui, parce qu'il est Korosh Yeshiva avec son gendre. C'est qui son gendre? Ben, son gendre n'est autre que Rabbi Chaim de Brisk. Reb Chaim Soloveitchik. Plus connu dans le monde des Yeshivot, Reb Chaim. Complètement opposé au sionisme, lui. Donc imaginez-vous dans la yeshiva, t'as le Rosh HaYeshiva, le vieux Rosh HaYeshiva complètement pro et le plus jeune Rosh HaYeshiva complètement anti. Ils sont d'accord sur rien. Le natif, il est plus vers le pshat, le Rebbeim, il est plus vers le pilpoul, le sioniste, il n'est pas sioniste. Mais il y a un truc sur lequel ils sont d'accord, ils demandent à être enterrés à côté l'un de l'autre. Ils sont dans le même OL. Parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit d'être séparés. Un grand chidouche. Un grand, grand chidouche. Et la type de Volozhin, eh bien, va fermer la yeshiva de Volozhin, on a dit. Pourquoi il va fermer la yeshiva de Volozhin? Parce que les Russes, à l'époque, ce n'était pas la Biélorussie, à l'époque, c'était l'Empire russe, eh bien, les Russes vont imposer de faire rentrer l'Imoudé Chol à yeshiva. Et au début, ils s'opposent, et les Russes disent, c'est pas compliqué, où tu fais rentrer les Limoudé Chol? Et c'est pas une heure, hein. Il fallait que de 9h à 15h, on étudie des matières chol. Le russe, les mathématiques, de 9h à 15h. Après, tu peux étudier la Torah. Eh bien, le natif dit, non, je ne suis pas d'accord. Il dit, ah, si c'est comme ça, vous fermez la yeshiva. Vous choisissez. Et le natif a dit, on ferme la yeshiva. Pas que le natif lui-même soit contre le fait d'étudier d'autres choses que la Torah. Il l'écrit ailleurs que c'est bezeder. Mais il ne veut pas qu'on nous dise comment, de l'extérieur, on nous dise comment on doit gérer la yeshiva. La yeshiva, c'est un endroit où on étudie la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on étudie la Torah. Lorsqu'après, on étudiera, fait un doctorat en mathématiques, on fera un doctorat en mathématiques. Ah ben, lorsqu'on étudie la Torah, en bataille, c'est Torah. Et la reine, il n'a pas accepté. À Bar-Ilan, mais à Bar-Ilan, il manque une partie de la phrase. Je veux bien que tu dises à Bar-Ilan, mais il manque une partie de truc. Par contre, si tu veux, on parle de Bar-Ilan. Alors David, si tu lèves la main, il faut que je te donne la... Faut que je te donne la parole.
Alors, moi, j'attends les questions, mais j'ai une question.
Ah, d'accord, très bien. Si tu parles de Bar-Ilan, en fait, quel rapport Bar-Ilan? Eh bien, le natif de Volozhin, il a plusieurs enfants. Qui sont les enfants du natif de Volozhin? C'est moi de Pachout. Il a un fils qui va être très connu, qui s'appelle Arav Chaim Berlin. Arav Chaim Berlin. Arav Chaim Berlin, qui va devenir un des grands canaïs à Jérusalem, un des grands anti-sionistes. Mais il a un autre fils, qui s'appelle Arav Meir Berlin. Bizarre, Arav Meir Berlin. Vous ne savez peut-être pas. C'était un grand sioniste. Et il faisait partie du Mizrahi. Et il a créé le journal Atzofé. Et il a créé l'encyclopédie talmudique. Il s'appelle Meir Berlin. Mais lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il change le nom Berlin, qui fait un peu trop Berlin. il change en Bar Ilan. Et donc, il va devenir le Rav Meir Bar Ilan, qui va donner l'université de Bar Ilan. Et donc, en fait, quand tu vas à l'université de Bar Ilan, tu vas à l'université qui porte le nom du fils du natsiv de Volozhin. Et le natsiv de Volozhin dira une phrase, juste avant de vous laisser ouvrir les micros, il dira « Toute la yeshiva de Volozhin, depuis le Gaon de Vilna, n'a été créée que pour un an et demi. » Comment ça, un an et demi ? Oui, toute la yeshiva n'a été créée que pour un an et demi. C'est l'année et demi, voilà, l'année et sept mois, où le Rav Kook était à la yeshiva. Où le Rav Kook est arrivé à l'yeshiva de Volozhin, on l'a dit la semaine dernière. Il a dit « Maspik » que pour uniquement cette période-là, la yeshiva a été créée pour voir grandir un homme comme le Rav Kook. Natif de Volozhin était donc le Rav du Rav Kook pendant une petite période, et pourtant le Rav Kook le reconnaîtra comme étant son Rav, à tel point que vous comprenez que être le rabbin, enfin l'élève de quelqu'un, c'est pas fonction forcément du nombre d'années qu'on a appris chez lui, mais c'est à quel point il a influencé notre façon d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, le dévoilement divin. Zehu, ze hanatziv mi Volozhin, Arav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rabo Shel Maran, Arav Kook. Et donc, maintenant qu'on a rempli le chov, on pourra revenir la prochaine fois au Rav Kook. Mais là, nous avons une question de David Altar. À toi de jouer.
Déjà, j'ai réouvert le micro pour ceux qui ont leurs questions. Il faut lever la main et on vous laissera la parole. Moi, j'ai une question à Rav. On a parlé du grand-père du Rav Kanievski. On parle de...
Rav Eliashiv.
De Rav Eliashiv, pardon. C'est-à-dire qu'on parle quand même de Rabbanim qui viennent de ce monde-là, hein, qui ont changé la maout de toute la Torah. Et leur héritage, entre guillemets, ils ont dit non, Toé, il s'est trompé, nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on est différent, on veut une Torah plus ancestrale. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'eux veulent rester dans la Torah de Chol. Et eux se sont dit, non, on est en Israël, on change tout. Mais maintenant qu'on est en Israël, comment ils arrivent à rester à la Torah de Chol ? J'arrive pas à comprendre, en fait, comment la Metziout, elle n'est pas au Chelet, leur déote.
Mais pourquoi, excuse-moi, pourquoi est-ce que tu parles de la Torah de Chol ? J'ai pas bien...
Non, on est en Israël aujourd'hui, ils ont commencé à faire, ils font de la politique, le monde Haredi fait de la politique, le monde Hassidique fait de la politique. Ils font partie du pays d'Israël, ils s'intègrent à la vie israélienne.
Non.
Mais leur Torah, elle dit Zelona, c'est pas ça.
Alors, je sais pas si tu fais référence au Rav Eliashiv.
Aussi.
Non, parce que tu dis parce qu'on a parlé de son grand-père. Mais... D'abord, il faut savoir que Rav Eliashiv, il y a une très 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 grande différence entre le Rav Eliashiv dans ses 10 dernières années de sa vie et tout le reste de sa vie. Pendant les 10 dernières années de sa vie, le Rav Eliashiv est devenu le représentant du monde Haredi. C'est un peu une grande blague, parce que le Rav Eliashiv, il n'était pas du tout le représentant du monde Haredi. Le Rav Eliashiv, c'est un élève du Rav Kook. Le Rav Eliashiv, il a été marié par le Rav Kook. Celui qui l'a marié, c'est le Rav Kook. Le Rav Eliashiv, quand il parlait du Rav Kook, c'était les étoiles dans les yeux. Il était Bar Plukta avec Reb Shlomo Zalman Neuerbach. C'était un monde Haredi qui n'a rien à voir avec le monde Haredi qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient Bekim, Bechochmot Achol, et de tout ce que tu veux. À la fin de sa vie, on en a fait, parce que c'était un homme de Torah, toute sa vie, le Rav Eliashiv. Et à la fin de sa vie, on en a fait le dirigeant des colonies. C'était pas ça. C'était pas ça. Il y a une grande différence, si tu veux, entre le Rav Eliashiv et le Rav Steinman, pour faire la différence dans le monde Haredi. Donc, c'est pas aussi tranché. Des fois, dans le monde Haredi, on va faire porter une idéologie qui n'est pas véritablement forcément l'idéologie du Rav. Donc voilà. Alors, je ne sais pas qui a fait dans l'ordre, mais.
Mais sans avoir besoin de montrer Haredi, on a dit le Rav Chaim Berlin, il est déjà antisémite.
Alors, le Rav Chaim Berlin, lui, il n'y a pas de problème. Ouais. Rav Chaim Berlin, lui, il n'a pas été dans le move de son père au niveau du sionisme. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, on a le droit de ne pas suivre son père. Notre fils, Rabbi Meir Bar Ilan, lui, il a complètement suivi son père. Bon, ben, c'est chacun. Voilà, ça arrive qu'il y ait des enfants qui ne suivent pas les traces de leur père.
Question de Simone.
Donc, qu'est-ce que vous venez de dire ? C'est Meir Berlin, il n'a pas suivi son père ? C'est lui ou c'est Raphaïm,
pas Meir. Rav Chaim Berlin,
Raphaïm.
Lui, il était très antisioniste. Il était parmi les dirigeants des Canaïm à Jérusalem, ce qui ne l'empêchait pas d'être quelqu'un de très gentil au demeurant. Mais il était très contre le mouvement sioniste. Alors que son frère, donc l'autre fils du Nativ, le Rav Meir Bar-Ilan, donc Berlin qui est devenu Bar-Ilan, lui, il était extrêmement pro-sioniste et impliqué dans le monde sioniste et ce que vous voulez.
D'accord. Non, je voulais revenir, s'il vous plaît, au livre de Shlomo et Yashiv. Vous avez dit que dans son livre, il explique le sol Melachim. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et il explique de manière générale, sans rentrer dans tous les détails, quelle est la différence qu'il y a entre les différents Malachim, qu'est-ce qu'ils rapportent comme dévoilement divin et quelle est leur interaction avec ce monde.
Alors, il reste 3 minutes, 3 dernières questions.
Alors, allez-y, Richard. Aaron, alors vas-y.
Oui, bonjour, Rav Ital. C'est juste une expérience. Je reviens sur le Tikkun HaNefashot. Et c'est quelque chose qu'on a fait, et j'étais personnellement donc dans un minyan de Tamid Chachamim, et on a lu le livre de Tehilim. Chaque chapitre, il y a une akafa avec un sefer Torah, avec le tombe shofar, et le rav, c'est le rav David Toledano, pour pas le nommer, d'Ashdod. On a fait tous ces tikkunim, il avait la liste des noms des neshamot que les gens voulaient éventuellement réparer. Et ça marche. Comment ça marche? Ça veut dire en rêve, les nefashot se dévoilent en rêve. Et où elles remercient verbalement, où elles apparaissent dans une tenue magnifique. C'est le siman qu'elles retrouvent leur place là où elles devaient être. Et donc, c'est simplement l'expérience que ça marche.
Avec un Ashkenaz, monsieur Benazano, vous parlez avec un Ashkenaz, 3 Ashkenaz pour ça.
Non, l'autre, Rav Shalom, c'est l'autre.
Au contraire, vous connaissez dans ça aussi.
C'est
donc,
c'est
au contraire.
Je n'ai rien dit.
En fait, j'avance parce qu'il y a des questions. Richard.
Il y avait Yocheved avant moi.
C'est là, Richard, dites-moi la question, Yocheved, elle est après vous dans demain.
Deux choses. La première, non, la statistique de 30% de pères, non, pas du tout. C'est 1 pour 30, c'est au maximum 3%. Il ne faut pas exagérer.
Vous me faites...
Voilà, alors, ça c'est déjà beaucoup plus certain. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est... Autant je peux trouver qu'il était parfaitement équitable de réduire la polygamie et de revenir à une monogamie, ça a été décidé il y a 1000 ans, on ne comprend pas alors pourquoi on a gardé cette marque d'infamie phénoménale qui était le mamzer, qui était parfaitement innocent. On aurait pu de la même façon décréter que cette mamzeroute était peut-être plus tout à fait d'actualité.
Mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'on arrête la
polygamie... Non, je ne fais qu'un parallèle. Je ne fais qu'un parallèle entre...
Mais je ne peux pas annuler la Torah. Le fait que la Torah m'ait permis de me marier avec plusieurs femmes et que finalement les Chachamim nous ont dit c'est pas bien et ça a fait évoluer les choses, c'est très bien, ça ne veut pas dire que je peux annuler le problème qui a été causé par une relation interdite. Le mamzer, c'est juste qu'il est porteur d'une réalité terrible, qu'il a été conçu dans une relation qui est fondamentalement anti-Torah. C'est pas de sa faute au mamzer. On lui en veut pas. Il est porteur d'une réalité. Oui. C'est terrible. C'est la faute des parents. Mais je vais vous dire mieux que ça. Aujourd'hui, on parle de mamzerim. Mais je prends la dernière seconde qui me reste. Mais j'ai été la semaine dernière en Pologne, effectivement, et j'ai rencontré un nombre qui m'a fait assez froid dans le dos parce que je n'avais pas vu autant au même endroit. Il y avait une centaine de jeunes et il y avait bien plus que 10. Donc, ça veut dire plus que 10% qui étaient des enfants non-juifs, dont le père était juif et la mère était non-juive. Et ce sont des enfants, des jeunes, enfin, ils sont plus enfants, hein, ils avaient 30 ans, mais des gens qui sont terriblement détruits dans leur identité, particulièrement depuis le début de la guerre. Parce qu'ils nous disent, on a perdu tous nos amis goy. C'est tous des gens pas religieux, évidemment, qui sont pas dans les écoles juives, qui ont pas grandi dans la communauté juive, parce qu'en général le père n'a pas donné d'éducation juive. Il dit, mais quelque part on était chez notre grand-mère qui nous faisait du couscous et on connaissait le judaïsme et on a baigné dedans, mais on n'est pas religieux. Et ils te disent, depuis la guerre, tous nos amis non-juifs nous ont coupé les ponts parce qu'ils nous ont, en général, c'était des amis qui étaient de confession musulmane, et ils nous ont catalogués dans le sens, vous êtes juif, donc vous êtes là, mais pour vous, c'est comme ça qu'ils me disent, pour vous les juifs, on n'est pas juifs. C'est terrible. Tu le dis, mais tu peux te convertir, mais je n'ai pas envie de me convertir. Je me sens juif depuis toujours. Pourquoi est-ce que tu veux que je me convertisse? Je suis assez juif pour me faire traiter de sale juif par les goyim, et je ne suis pas assez juif pour les juifs. C'est quelque chose qui est terrible. Je comprends la souffrance et la douleur. Mal à Assot, tes parents, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On est porteur de ce que nos parents y font. Et donc, on a une responsabilité par rapport à nos enfants. Donc, le mamzer, ce n'est pas de sa faute, mais c'est comme ça.
Il y avait une dernière question de Yocheved. Je vois qu'elle a baissé la main. Yocheved, plus de questions?
Oui, c'est une question que peut-être le Rav peut développer le cours suivant, puisque je voulais vous demander si vous pouviez développer le thème de l'unité. Si j'ai bien noté, vous avez expliqué que...
Oui. On en parlera avec la Torah du Rav Kouk, bien sûr. Eh bien, très bien. Alors, 10h01, je pense que... On est bon.
Toda rabba.
Chazak v'aruch.
Opa, toda rabba. Raf, izo, shavua tov.
Toda rabba.
Bol tov.
Et on attend tout de suite.
Chazak ou Balzac.
Exactement. J'aurais pas dit mieux.
Passionnant.
Ah, c'était le Raf Cherki. Ok. Alors, je vois que le Raf Cherki s'est connecté sous le nom